Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Moi, Robert Gabriel Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. C'est avant-hier, au moment où les députés examinaient une procédure de destitution à son encontre, que le plus vieux chef d'État en exercice au monde, il a 93 ans, a fait savoir qu'il renonçait au pouvoir. Son règne aura été long, 37 ans, sa chute rapide, une quinzaine de jours, l'éviction de son vice-président Emmerson Mnangagwa au profit de son épouse Grace Mugabe aura précipité un départ qui semblait ne devoir advenir qu'avec sa mort. Envoyé spécial à Harare, la capitale du Zimbabwe, pour le journal Le Monde, le journaliste Jean-Philippe Rémy a posté ce commentaire mardi sur Twitter. Pas de sang versé, respect des textes, certes dans un contexte un peu étrange, le Zimbabwe s'est assuré une succession à part. Transition non violente en effet, mais qui témoigne aussi de la capacité d'un système autoritaire à se maintenir au pouvoir, puisque demain, Mnangagwa, surnommé le crocodile, ce qui donne une idée de sa façon de diriger les hommes, sera officiellement investi. Un dictateur s'en va, un autre pourrait bien prendre sa place, à moins d'une véritable transition démocratique. Alors Robert Mugabe, une chute exemplaire. Eh bien, c'est la discussion que nous allons avoir ce soir avec trois invités. Virginie Roiron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Strasbourg. Vos thèmes de recherche, le Commonwealth, la décolonisation et le Zimbabwe, trois thèmes qui ont un lien certain entre eux. Pour discuter avec vous, Chenira Girolon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous y êtes la responsable adjointe du bureau Afrique, ce qui vous conduit, j'imagine, à aller régulièrement sur ce continent. Pas forcément spécialement au Zimbabwe, mais dans d'autres pays du continent. Et puis, troisième invité, Roland Marchal. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de recherche CNRS au CERI, à Sciences Po, le centre d'études. Des relations internationales, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Rappelez-moi.
Le centre de recherche internationale.
Bah oui, pourquoi est-ce que j'ai voulu absolument ajouter le
E? Parce qu'on a changé de nom.
Vos recherches, elles portent sur l'économie et les conflits dans l'Afrique subsaharienne. Enfin, en tout cas, notamment. Alors, je voudrais d'abord qu'on fasse un premier tour de table avec vous trois pour savoir comment vous qualifieriez ce qui vient de se passer au Zimbabwe. Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est une transition pacifique? Est-ce que c'est une révolution de palais? Est-ce que vous avez une autre formule qui vous conviendrait davantage? Virginie Roiron.
Alors, c'est une révolution de palais. C'est une révolution. C'est ça, donc, absolument pas un coup d'État ni c'est un coup de force de l'armée, mais un coup de force interne au parti ZANU-PF, puisque le parti était divisé en deux factions. La faction G40, qui était celle de Grace Mugabe, l'épouse du président, et la faction Lacoste, qui était celle du crocodile, donc de Emmerson Mnangagwa, qui était vice-président jusqu'au 6 novembre. Et le limogeage du vice-président, a entraîné les événements, comme vous l'avez dit.
Révolution de palais, c'est aussi la formule qui vous conviendrait, Roland Marchal?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a pas de. Si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est comment l'opposition, qui a quand même lutté et qui a payé très cher sa possibilité de s'exprimer contre les ZANU-PF, est restée, disons, silencieuse et simplement, c'est un règlement de compte à l'intérieur du pouvoir. Et on va le voir dans les jours qui viennent.
Voilà, on ne peut pas parler d'alternance politique, en tout cas s'agissant de ce qui est en train de se passer au Zimbabwe. Votre appréciation, Chenira Girolon?
Oui, je vais absolument dans le même sens. Il s'agit du résultat d'une véritable guerre de succession au sein du parti au pouvoir. Donc il s'agit de la chute, effectivement, de Robert Mugabe, mais d'une chute attendue aussi. Non seulement par ceux au sein du parti au pouvoir qui souhaitaient vraiment ce combat pour la succession, mais aussi plus largement par la population zimbabwéenne.
Quand vous dites que c'était une chute attendue, est-ce que ça veut dire que c'était une chute qu'on pouvait voir venir depuis quelques temps, ou bien est-ce que ça a quand même été particulièrement rapide? C'est vrai, alors quand on s'intéresse pas particulièrement à ce pays, on retient surtout que ça s'est passé en une quinzaine de jours, c'est-à-dire voilà, un processus extrêmement rapide. Mais est-ce que le feu couvait déjà depuis longtemps?
Alors quand je dis attendu, c'est attendu dans le sens où, comme vous l'avez rappelé, Robert Mugabe a été quand même président de ce pays pendant 37 ans. 37 années qui ont été longues et très dures, avec plus des deux tiers de ces années qui ont été marquées par un régime dictatorial, avec marqué par des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture, des intimidations non seulement contre les opposants politiques, mais aussi contre plus largement la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Donc attendu vraiment dans ce sens-là, parce que le pays a été jalonné d'élections présidentielles qui auraient pu consacrer une alternance au pouvoir, mais ça n'a pas été le cas. Et donc c'est vrai que cette chute reste historique en cela.
Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'était une chute attendue par les Zimbabwéens et inattendue dans la façon et dans la rapidité dans laquelle elle s'est déroulée, Roland Marshall?
Écoutez, bon, je ne suis pas un spécialiste du Zimbabwe, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui peut répondre plus amen que moi. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est quand même la capacité, et c'est ça quand même ce régime, c'est la capacité de construire des rouages internes, de contrôle des instruments du pouvoir, l'armée, la police, dont on a très peu parlé dans ces événements, et évidemment le parti. Et finalement, si vous voulez, ce que nous on voit, c'est les foules qui manifestent leur joie, des militaires qui sont là, mais finalement bons enfants, alors que la réalité du processus, sa temporalité n'est pas celle des manifestations de rue, et d'une part, et je crois que bon, Virginie pourra revenir là-dessus, et puis d'un autre côté aussi, la violence qui s'est déployée, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus qui a commencé, qui a eu lieu dans les années 80, qui s'est prolongé dans les années 2000 de façon, je crois, la précédente personne pouvait le décrire, mais qui fait qu'on a essayé de tuer, et pas simplement symboliquement, tous les gens qui pouvaient porter une autre parole que celle du ZANU-PF. Et donc c'est un règlement de compte intérieur. Et ce qui est, je dirais, paradoxal et peut-être exemplaire, c'est justement le fait que c'est en fait la vieille génération qui essaye de gagner contre les jeunes générations qui, de façon assez opportuniste, se sont mis derrière la charmante épouse de Monsieur le Président.
Virginie Roiron, c'est une révolution donc de palais qui se préparait depuis longtemps.
Oui, en fait, à partir de 2013-2014, la voie a été ouverte. Parce que c'était vraiment, donc 2009-2013, il y a eu un gouvernement de coalition entre qui avait été fait sous la médiation de l'Afrique du Sud et de la SADC, donc l'organisation régionale des États d'Afrique australe. Et là, donc l'opposition avait été donc Morgan Tsvangirai, le MDC, donc ce parti d'opposition qui a toujours refusé la violence et refusé de prendre le pouvoir par la force et de toujours jouer le jeu démocratique, a été associé au pouvoir. Il était Premier ministre et Mugabe était président. Donc pendant ces années-là, l'économie s'est un petit peu redressée parce que la confiance, les investisseurs internationaux sont un petit peu revenus. Bon, et après, en 2013, une constitution a été voté par référendum, référendum, on peut se demander, bref, mais entérinant la mainmise en fait de la ZANU-PF sur l'appareil d'État. Donc à partir de là,
je rappelle, c'est le parti, voilà,
la ZANU-PF, oui, c'est le parti de Mugabe. À partir de ce moment-là, la lutte pour la succession, en plus avec un président vieillissant et de plus en plus affaibli et de plus en plus sous la coupe de son épouse qui voyait son intérêt également. Ce parti a été très divisé par des luttes de succession.
Donc on peut dire qu'il attendait son heure et que l'heure, elle est advenue manifestement, en tout cas il y a 15 jours, puisque derrière ça a été très rapide. En termes d'exemplarité, moi ce qui me semblait aussi assez frappant finalement dans cette... Alors même si ça n'est qu'une transition interne au pouvoir, c'est que... Il y a quand même une intervention des militaires, il y a des manifestations qui sont importantes, même si elles ne sont peut-être pas aussi massives que dans d'autres cas de transition politique. Je pense par exemple à ce qui a pu se passer au Burkina Faso, mais il n'y a pas de violence, en tout cas, il n'y a pas eu de sang versé. Est-ce que ça distingue peut-être justement ce qui vient de se passer au Zimbabwe par rapport à d'autres formes de transition politique en Afrique, Chérine Nagerolon?
Peut-être que ce qui a été intéressant de voir ces derniers jours, c'est que il y a quand même, malgré toute l'euphorie, parce qu'encore une fois, c'est un régime qui était très dur, malgré toute l'euphorie, il y a eu une certaine forme de lucidité notamment de la part des organisations de la société civile. Alors certaines ont réagi à la façon dont justement ces manifestations se sont déroulées de manière pacifique, sans intervention de la police, sans intervention des militaires. Et dans la réaction de ces organisations, elles ont clairement pointé du doigt le fait que, en cela, c'était historique parce que ces dernières années, ils n'ont pas eu le droit de manifester sans subir de répression de la part des forces de police et des forces des forces militaires. Et donc, ils ont voulu aussi le souligner en disant que les manifestations qui ont été organisées ces dernières années et qui ont été très violemment réprimées l'ont été du fait de la participation de la police et que
c'est peut-être aussi le signe, en tout cas la preuve que Robert Mugabe se retrouvait extrêmement isolé.
Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on compare avec d'autres systèmes où pareil des dictateurs ont connu des fins plus ou moins similaires, celui-ci ne s'est pas caractérisé par de la violence parce que Mugabe justement a été lâché très vite par le secteur de la sécurité.
Alors Virginie Roiron et ensuite Roland Marchal.
C'est aussi si vous faites référence à la manifestation de samedi, elle était quand même très très encadrée cette manifestation et elle servait bien les intérêts des personnes qui ont fait le coup. Donc alors effectivement c'était alors d'une certaine manière on peut se demander si l'armée s'est pas parfois sentie un petit peu dépassée puisque il y avait pas seulement des partisans de la ZANU-PF dans la rue, il y avait aussi justement, l'opposition, il y a Tsvangirai qui est revenu d'Afrique du Sud, il y avait donc tous ces mouvements de société civile qui avaient été muselés jusqu'à maintenant, mais il n'empêche que c'est ça montrait, ça permettait d'avoir pour l'armée un levier pour montrer qu'ils avaient la légitimité et qu'ils et c'était un signal envoyé à la communauté internationale, à la SADC, pour montrer que ils agissaient au nom du peuple.
La SADC, pardonnez-moi.
L'organisation régionale des États d'Afrique australe. Enfin,
Roland Marchal.
Oui, non, je crois que c'est. Enfin, moi, je vois ça quand même. Je pense, on est encore au milieu d'un processus, d'accord. Et pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? On a le deep state zimbabwéen, c'est-à-dire la tendance crocodile, qui agite le spectre d'une manifestation populaire pour montrer qu'il a le peuple derrière lui. Quel a le peuple derrière lui et qu'elle peut donc accéder au pouvoir. Il y a un unanimisme aujourd'hui qui va pas durer très longtemps. Enfin, parce que, justement, c'est une faction à l'intérieur du parti, ça n'est qu'une faction. C'est pas un courant réformiste qui a gagné les autres. Il a joué ses cartes, il les a bien jouées. Mais c'est pas du tout un courant réformiste. Et encore une fois, il y a des secteurs importants de la population qu'on a bien voulu mobiliser pour dire à Mugabe qu'il parte, mais qu'on ne mobilisera certainement pas de la même façon pour leur demander comment il faut libéraliser maintenant et l'espace politique et l'espace économique.
Est-ce qu'on a des éléments de comparaison, Roland Marchal, qui permettraient de dire, alors même si on sait bien que comparaison n'est pas raison, mais que il y a d'autres modes de transition assez proches qui ont pu avoir lieu dans d'autres pays du continent africain et qui témoigneraient aussi de cette importance de ce deep state, cet état profond qui a réussi à finalement à se maintenir au pouvoir sous l'apparence d'une alternance, d'une transition.
Ben écoutez, bon, vous avez peut-être. Moi, je ne reviendrai pas vers l'Afrique de l'Ouest parce que je ne travaille pas sur cette région-là, mais en Afrique, dans le Grand Afrique de l'Est, bon, je pense au Soudan, 1985, hein. C'est-à-dire les émeutes à Khartoum qui mettent dehors Nimeri. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et si vous voulez, c'était quand même quelque chose d'un peu plus compliqué que ce qu'on a vu au Zimbabwe, dans la mesure où l'armée est intervenue peut-être pour éviter un mouvement populaire plus radical, qui aurait d'ailleurs pas forcément progressiste par ailleurs, hein, mais qui certainement aurait voulu mettre à bas l'État beaucoup plus que ça n'a été le cas par les émeutes qu'on a baptisées un peu vite émeutes de la faim en 1985. Donc oui, vous avez, je pense à la Tunisie évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer en Algérie, donc je n'en parlerai pas, mais vous avez toute une série de processus politiques, et je vous dis, la dimension comparative, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous incite à être extrêmement prudent sur ce que nous voyons aujourd'hui, parce que on n'est pas encore dans le... on n'est pas au terme de ce procès, de cette période-là. Donc il faut être, il faut quand on dit qu'il n'y a pas eu de violence, d'abord, je vous dis, moi ça me fait sourire parce que un de mes collègues qui a beaucoup travaillé sur le Zimbabwe, Daniel Compagnon, quand même, lui était venu à s'intéresser justement par l'ampleur des violences qui avaient frappé les massacres du Matabeleland, quand même un pays récemment indépendant qui massacre plus de 20 000 personnes. C'est pas tout à fait anodin. Et ensuite, la répression politique qui a été quand même extrêmement dure, comme vous le rappeliez, dans les années 2000. Donc, il faut, si vous voulez, être très attentif. J'espère que la SADC va enfin jouer un rôle qu'elle n'a pas joué. Ça serait important de le dire. Mugabe a quand même tenu grâce à l'Afrique du Sud. Hein, et ce régime a été tellement lent à évoluer aussi parce que derrière Mugabe, il y avait une Afrique du Sud qui l'a soutenu politiquement et diplomatiquement. Et ça, c'est sans doute aussi une des choses qu'il faut pointer si on essaye de faire du comparatisme. Parce qu'on voit bien que ces régimes autoritaires, ils tiennent pas simplement par leur propre force. Ils tiennent aussi parce qu'ils sont dans un environnement régional qui les soutient et peut-être aussi international. Parce que le rôle de la Chine, qui s'est d'emblée porté garant quand les Occidentaux ont tourné kazakh, a été un élément essentiel de la stabilité du régime.
Alors, puisque vous parlez de l'Afrique du Sud et de comparatisme, et bien poussons cet exercice-là. Je ne sais pas jusqu'où, d'ailleurs, il faut le pousser, mais est-ce qu'on peut se dire, par exemple, qu'étant donné l'itinéraire qui a été celui de Robert Mugabe, qu'il aurait pu peut-être être un autre Nelson Mandela ou un Nelson Mandelabi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des certaines ressemblances dans le parcours des deux, Virginie Roiron, c'est-à-dire il y a un parcours marxiste, enfin en tout cas une adhésion à certaines thèses marxistes, la création d'un mouvement de libération, il va passer un certain nombre d'années en prison, puis il devient le héros de la libération du pays. Donc ça pourrait être, ça aurait pu être un Mandelabis.
Mais c'était en 1980 l'espoir immense. Qui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les massacres du Matabeleland ont été passés sous silence. On ne voulait pas que ça ne marche pas. On voulait montrer que l'Afrique, que le Zimbabwe pouvait être un exemple de transition comme pour l'Afrique du Sud qui était encore sous apartheid à l'époque. Mugabe a été un des chantres de la lutte un des plus grands soutiens de l'ANC pour la libération de l'Afrique du Sud. Alors après un des drames, je pense aussi, de la vie de Mugabe, c'est la libération de Nelson Mandela, c'est l'Afrique du Sud qui réussit sa transition entre 90 et 94 et un Nelson Mandela qui devient le symbole de la libération des peuples noirs de l'oppression blanche.
Alors que lui effectivement pouvait représenter ce symbole-là, il promettait aussi la réconciliation. Écoutez comment on parlait justement de son accession au pouvoir et de ce Zimbabwe devenu indépendant. En 1980, c'est une archivina, c'était un reportage du journal d'Antenne 2 à l'époque.
Après 10 ans de prison politique, après 7 ans d'une atroce guérilla contre le régime blanc, voici donc Robert Mugabe, 51 ans, le président de la ZANU, assuré de devenir le premier chef de gouvernement du Zimbabwe indépendant. Sa victoire aux élections est écrasante, avec 63% des voix et 57 sièges sur 100 au Parlement. Mugabe dispose d'une majorité absolue. On pense ici qu'il proposera une coalition à l'autre grand leader des guérilleros, Joshua Nkomo, ce qui donnerait 77 sièges au Parlement pour le nouveau gouvernement. Dès l'annonce des résultats, Mugabe a tenu à rassurer les blancs rhodésiens. Ensemble, a-t-il dit, nous devons maintenant oublier la guerre et reconstruire notre pays. En effet, la grande inquiétude des blancs et des noirs modérés ici vient de ce que Mugabe est le chef de la tendance la plus dure et la plus marxiste. Mais pour l'instant, Mugabe ne parle que de modération.
Voilà, Robert Mugabe, tel qu'on en parlait en 1980 dans un reportage sur Antenne 2. Alors, on a vu à quel point l'exercice du pouvoir, 37 années à diriger le pays, ont pu corrompre les idées qui étaient les siennes, ou en tout cas celles qu'ils avançaient. Est-ce que ça reste quand même un symbole important en Afrique aujourd'hui, Mugabe, du point de vue justement de ce qu'il a pu représenter en termes de libération et d'indépendance, Thierry Nagerolon?
Oui, clairement, et on le voit encore aujourd'hui dans les commentaires divers et variés qui sont faits pour commenter l'actualité, que ce soit au niveau des chefs d'État africains, que ce soit au niveau de l'Union africaine, etc. Donc tout le monde est plutôt, salue l'homme qu'il a été et le rôle qu'il a joué dans les processus de libération de son pays, l'exemple qu'il a pu jouer au départ pour les autres États de la sous-région.
C'est ce qui fait qu'il y a peut-être une forme de mensuétude à son égard, c'est-à-dire, vu le rôle historique qu'il a joué, on le critiquait peut-être moins que d'autres?
Probablement au niveau des chefs d'État, encore une fois, je pense qu'il y a eu assez rapidement une certaine forme de lucidité sur la réalité de son régime. Une fois de plus, au niveau de la société civile, enfin voilà, c'était quand même connu de tous, hein, la façon dont ce régime était dirigé et mené. Donc je pense qu'il y a eu effectivement, il a conservé pendant longtemps cette figure un peu historique qu'il a d'une certaine façon préservé, comme vous le disiez, notamment avec le soutien de certains États de la région.
Et du coup, on peut dire que c'est une page d'histoire qui se tourne, Roland Marshall, ce départ de Robert Mugabe. Évidemment pour le pays, mais aussi pour l'Afrique.
Donc on n'est pas... Je crois que les pages d'histoire se tournent pas aussi vite que ça.
Vous me disiez hors studio que c'était quand même le signe presque de la fin de la guerre froide.
Oui, mais parce que, si vous voulez, je voulais revenir moi sur le rôle, parce que c'est très important, la comparaison avec l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe a joué un rôle essentiel dans les États de la ligne de front, donc en lutte contre l'apartheid, pour soutenir les groupes armés, et pas seulement l'ANC, parce qu'il faut aussi se souvenir que le ZANU, la ZANU, qui est donc l'organisation de le Front de Libération de Mugabe, est une organisation qui a des relations extrêmement difficiles avec l'ANC, parce qu'ils n'ont pas les mêmes patrons. L'amitié avec la Chine, elle date de ce moment-là, elle date pas de son accession au pouvoir, ce qui fait aussi que quand Mugabe sera en difficulté au niveau international, la Chine aura encore moins d'hésitation à le rejoindre et à le soutenir, malgré toute l'opprobre qu'on peut lire dans la presse occidentale. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Mugabe fait des sacrifices pendant plus d'une dizaine d'années, parce qu'il y a la guerre quand même, et l'Afrique du Sud, sous apartheid, mène la guerre. Et ensuite, quand Nelson Mandela arrive, il se passe deux choses terribles. Je crois qu'il a extrêmement mal vécu. La première, c'est que lui, dans son processus intérieur, on pourra peut-être y revenir, a essayé d'une certaine façon, au tout début, de tendre la main vers les milieux d'affaires blancs, les milieux fermés blancs. Ça a échoué pour un certain nombre de raisons, encore une fois, que je connais mal, mais je pense qu'on a le spécialiste dans la salle. Et ce qu'il voit, c'est que en fait, Mandela arrive. Et à cause des négociations, il met en place un État qui va fonctionner, qui va très bien fonctionner là-dessus. Et ça, c'est, je pense, une humiliation terrible, parce que c'est son problème intérieur. C'est son cancer politique, au-delà de l'exécution de l'autre branche du mouvement nationaliste et indépendantiste zimbabwéen. Le deuxième problème, c'est que l'Afrique du Sud à une politique de puissance, c'est-à-dire que lui s'attendait, et je crois que on peut être derrière lui dans ça, à des remerciements sud-africains. Et ce qu'il voit, c'est que le capitalisme sud-africain, qui est un capitalisme dynamique dans cette période-là, ben prend le contrôle de l'économie zimbabwéenne, et que lui, malgré tout ce qu'il a fait politiquement pour aider l'Afrique du Sud, eh ben il assiste à ça. Et je crois que il l'a extrêmement mal vécu, et ça se voit dans le comportement qu'il adoptera et les choix politiques qu'il fera dans un certain nombre de conflits, notamment en RDC. Enfin, dans ce qui est devenu aujourd'hui la RDC, parce qu'il voudra à chaque fois montrer que le Zimbabwe n'est pas l'Afrique du Sud.
Virginie Roiron, est-ce que ça se voit aussi dans le comportement de l'ancienne puissance coloniale qu'est le Royaume-Uni? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement particulier qui est fait au Zimbabwe qui pourrait aussi expliquer une forme de ressentiment important?
Alors, Donc, bien sûr, il y a Robert Mugabe tient, il a raison d'ailleurs, la Grande-Bretagne pour responsable de transfert du pouvoir à la minorité blanche, de cette rébellion de la minorité blanche en 1965 qui déclare unilatéralement son indépendance et qui plonge en fait le pays dans ses 15 ans quand même de guerre, quoi, de guérilla. Les accords de Lancaster House en 1979 sont donc effectivement signés avec la Grande-Bretagne qui a repris les choses en main avec la médiation du Commonwealth, etc. Et le problème, c'est que ces accords sont effectivement très imparfaits. Donc, pour revenir à ce que disait Roland Marshall, c'est les accords en fait proposent une espèce de moratoire de 10 ans. En fait, les accords proposent que pendant 10 ans, on ne touche pas aux droits de propriété. Et donc c'est comme ça qu'on règle la question des terres, qui quand même va poser problème, et que la constitution, enfin en fait les accords ne doivent pas rester, ne doivent pas être changés pendant 10 ans. Et finalement ça l'a un peu obligé à jouer le jeu effectivement avec les blancs, donc à ne pas vraiment changer leur mode de vie. Mais du coup après ça voilà, on a et dans Lancaster House il y avait aussi le principe de d'un rachat en fait des fermes sur une base de volontariat. Donc on ne pouvait pas racheter le gouvernement zimbabwéen ne pouvait pas racheter les terres par la force, obliger un fermier à vendre ou quoi que ce soit. Et pour cela, la Grande-Bretagne, également les États-Unis, avaient abondé un fonds pour permettre au gouvernement, aider le gouvernement zimbabwéen à le faire. Et ça,
mais
tout
parlons,
ça,
parlons d'aujourd'hui, si vous voulez bien, Virginie Roiron. Voilà. Est-ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont joué un rôle là aussi dans ce qui vient de se passer?
Non, là, pour le coup, je pense que...
Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce que Mugabe s'en aille. C'est quoi? Il y a le risque de créer de l'instabilité régionale.
Il n'y a pas de politique américaine sur l'Afrique.
Non, pas
de part. À part le
terrorisme. Laissons de côté les États-Unis, en tout cas, peut-être la Grande-Bretagne a quand même sans doute un avis sur le sujet.
Vous pensez que Boris Johnson
avait. Non, pas le. Enfin, le gouvernement actuel, c'est se désintéresser du sujet. En revanche, effectivement, l'un des problèmes avec la Grande-Bretagne, ça a été Tony Blair. Ça, c'est sûr. Le revirement complet du gouvernement britannique sur l'aide apportée pour le rachat des terres, etc. Le fait que la vision de l'histoire aussi, le rapport à l'histoire du gouvernement travailliste, ce qui se voulait moderne et qui disait, bon, on n'a pas à demander pardon tout le temps, on n'a pas la lettre que Claire Short, qui était ministre du développement, avait envoyée à Mugabe pour lui dire que je ne suis pas responsable et nombre d'entre nous ne sont absolument pas responsables du passé. Donc tout ça a créé des tensions énormes. Mais là, actuellement, on ne peut pas...
Alors je vous rappelle la question qu'on pose ce soir. Est-ce que la chute de Robert Mugabe est une chute exemplaire? Dans l'idée d'exemplarité, il y a aussi le fait que ça serve peut-être d'exemple ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, Tchérina Gérolon? Est-ce que ce type, justement, de transition, de vraie fausse transition, peuvent avoir, justement, une dimension, alors pour les sociétés civiles, puisque c'est aussi beaucoup auprès d'elles que vous travaillez au sein de l'AFIDH, pour essayer de mettre en place des processus qui amènent justement à des changements de dirigeants?
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte attente en termes d'effets domino sur le continent. Vous le rappelez, au Soudan, Omar el-Béchir est au pouvoir quand même depuis la fin des années 80. On le voit encore ce débat.
1986.
Absolument, Museveni en Ouganda, Béchir au Soudan, Idriss Déby aussi au Tchad. Donc on a quand même encore aujourd'hui un certain nombre de chefs d'État qui sont au pouvoir depuis très longtemps, et puis de très fortes attentes de la part non seulement de la société civile, mais des populations africaines plus générales en termes d'alternance démocratique. Je crois que ce qu'on a observé ces 5-6 dernières années sur le continent a été intéressant de ce point de vue-là. Notamment si on parle plus récemment de ce qui s'est passé en Gambie par exemple, où après 22 années de dictature sous Yahya Jammeh, le pays a pu connaître une forme d'alternance.
Voilà, c'était cette année, en début d'année, début 2017.
Fin 2016. Et c'est vrai que ça a été un moment historique et important pour la Gambie. Encore une fois, ça a été un régime dictatorial très dur, marqué par de très très fortes répressions, avec une société civile complètement laminée. Et je crois que ce qui a été intéressant, parce qu'on l'a vu aussi au Burkina Faso, on le voit aujourd'hui au Togo, on le voit aussi, c'est très marqué en République démocratique du Congo, c'est cette tentative de prise en main par ce qu'on appelle les mouvements citoyens, donc qui sortent un peu des rangs de la société civile dite classique, donc des organisations de défense des droits de l'homme classiques, et qui sont vraiment des mouvements populaires, des mouvements de rue qui rassemblent des militants, des musiciens, des artistes, des entrepreneurs, etc. Et qui ont, ces dernières années, eu cette soif d'alternance sur le continent. Et on l'a très bien vu en Gambie, à la faveur du départ de Yahya Jammeh, et encore une fois très fortement aussi au Burkina Faso. Et je pense que c'est important de pouvoir souligner le rôle qu'ont pu jouer ces mouvements dans ces alternances.
Sur cette idée d'un effet domino attendu, Roland Marchal?
Non. Je suis assez pessimiste de façon générale et de façon particulière. Non, si vous voulez, je crois que ces soulèvements, on le voit
non,
dans le cas.
Non, parce que quoi? Parce que chaque cas est unique.
Parce que chaque cas est unique, et vous voyez bien que ce qui se passe aujourd'hui au Zimbabwe, n'en déplaise à ces manifestants, c'est pas l'expression d'une revendication démocratique qui se manifeste dans un changement de président. C'est un coup d'État interne au pouvoir. Rien n'est dit sur ce qui va se passer dans la suite en termes de politique économique. Par exemple, qu'est-ce qui va en être de... est-ce que la ZANU-PF va arrêter d'avoir le comportement de prédation qu'elle a eu pendant si longtemps? Qu'est-ce qui va se passer également au niveau régional? Bon, on est quand même dans l'expectative, on est face à un pays qui est détruit économiquement.
Hein, quand vous dites qu'est-ce qui va se passer au niveau régional, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact, ce changement de dirigeant au Zimbabwe, sur l'ensemble de la région?
On va voir si la région, après avoir soutenu Mugabe à bout de bras pendant des années, va avoir le courage aujourd'hui, notamment l'Afrique du Sud qui joue un rôle énorme dans l'économie zimbabwéenne, à la fois par les migrants et par ses investissements potentiels ou actés, est-ce qu'elle va jouer un rôle dynamique pour essayer de mettre en place un plan d'urgence de sauvetage de l'économie? Oui, c'est... Et qu'est-ce que va faire, que vont faire les vétérans qui ont quand même beaucoup bénéficié des rentes d'un pouvoir autoritaire si on va vers une économie qui fonctionne de façon plus transparente? Donc vous avez des questions de ce point de vue-là, et vous avez une autre question qui est extrêmement compliqué, qui est la revendication de la terre. Parce que la revendication de la terre, c'est à la fois un des fondements de la lutte de libération nationale au Zimbabwe, mais c'est aussi le secteur économique à côté du secteur minier qui peut sauver ce pays d'une banqueroute totale comme elle l'a déjà connue en 2008-2009. Qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur-là? Et là aussi, il faut peut-être rappeler combien Mugabe a été populaire, notamment en Afrique du Sud, parce que Mugabe a fait ce que le gouvernement sud-africain n'a pas voulu faire. C'est-à-dire, entre guillemets, puisque c'est totalement démagogique ce qui s'est passé, reprendre la terre aux Blancs pour la donner aux vrais habitants du pays qui étaient les Noirs, entre guillemets tout ça. Hein, parce qu'en fait, ça n'est pas allé à la population, c'est allé aux caciques du régime, etc. Et évidemment, ça a fichu en l'air le secteur agricole. Mais le débat, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut revenir et éviter des sentiments un peu trop moraux et trop rapides, cette revendication de la terre, c'est quelque chose qui est essentiel d'un point de vue identitaire, d'un point de vue politique, et c'est ce qui a donné à Mugabe sans doute une image continentale extrêmement positive, quand bien même ce qui se passait au niveau interne, enfin intérieur zimbabwéen, était un désastre absolu. Et la question qui se pose, c'est cette revendication-là, elle est générale, elle est aussi, elle s'inscrit dans une hostilité à ce que beaucoup de gens en Afrique, et notamment dans les sociétés civiles, perçoivent comme un processus de recolonisation sous les auspices de la lutte antiterroriste. Et comment est-ce que les gens vont gérer ça? Bon, ben, c'est ce qu'on va voir dans les... Et c'est peut-être ça le principal effet que moi je vois dans le changement actuel.
Virginie Roy, on sent Mugabe à la tête du Zimbabwe. Est-ce qu'on peut dire que le pays, au niveau régional, en tout cas, dans un premier temps, sort plutôt affaibli parce qu'il y a la perte de cette figure importante pour le continent africain et notamment pour cette partie du continent, ou bien au contraire renforcé étant donné ce qu'a été l'exercice de son pouvoir extrêmement critiquable, si ce n'est extrêmement critiqué.
Alors je dirais que ça va être un statu quo, ne serait-ce que voilà, on garde la même clique au pouvoir de toute façon. Donc à partir de là, simplement, peut-être de nature à rassurer un petit peu plus les milieux économiques, parce que Emmerson Mnangagwa était quand même soutenu à la base, donc sa faction, par les milieux économiques au Zimbabwe. Alors il n'avait pas une assise très populaire, mais notamment et c'est vrai que les discours qu'il a fait récemment appellent aussi à ce redressement économique. Alors que va-t-il faire? Va-t-il faire donc de ce point de vue-là, peut-être un facteur de stabilité pour la région, puisque on a quand même beaucoup de Zimbabwéens qui ont émigré, hein, notamment en Afrique du Sud. Donc là, pareil, l'Afrique du Sud, c'est un facteur de déstabilisation important. Le discours, effectivement, je suis d'accord avec Roland Marshall sur la propriété, l'appropriation, la réappropriation de ce qui est considéré comme nous appartenant, comme notre et de notre histoire, contre des volontés occidentales vues comme impérialistes, renforce le discours nationaliste et des figures du type Mugabe.
Étant donné cette dimension-là, est-ce que ça veut dire que, par exemple, le sommet qui va avoir lieu la semaine prochaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre d'une part l'Union africaine et d'autre part l'Union européenne, et au cours duquel ce sommet, il est censé être question notamment de démocratie et de droits de l'homme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existera sur le papier, mais dont on parlera sans doute peu. Et le courage qu'évoquait Roland Marshall à propos de l'attitude que devrait avoir aujourd'hui l'Afrique du Sud, ce courage-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va l'entendre de manière un petit peu plus claire lors de ce sommet, Thierry Nagerolon, ou bien c'est toujours quelque chose de très, de très compliqué?
Non, je ne pense pas que ce sera un sujet très marqué lors de ce sommet, ou en tout cas que les chefs d'État qui seront présents feront preuve de courage de ce point de vue-là.
Ni du côté de l'Union africaine, ni du côté de l'Union européenne.
Si on arrive à sauver les conditionnalités politiques qui sont très faibles mais contenues dans l'accord de Cotonou, je crois qu'on aura déjà réussi. Ça, on pourra considérer ça comme une victoire. Donc simplement le fait de ne pas avoir reculé. Non, on est dans une situation très difficile et on le voit. Il suffit de regarder la politique européenne sur l'immigration. Bon, je veux dire, ça devrait faire honte à tout le monde, dans toutes les familles de France et de Navarre. Bon, non, au contraire, on trouve que c'est pas assez dur, que c'est des laxistes. Donc, que penser le terrorisme? Ben, on dit que on va envoyer des troupes, on va construire des armées sans se poser le problème de ce que font ces armées. Il faut quand même se dire que on va avoir un président qui va sans doute prononcer un très très beau discours à Ouagadougou, puis qui ira au sommet d'Abidjan, donc entre Union européenne et Union africaine, mais qui entretient des relations extrêmement cordiales avec Monsieur Idriss Déby, président du Tchad, et qui n'a d'ailleurs jamais répondu à la demande de l'Élysée sur la date des futures élections législatives dans son pays. Donc, si vous voulez, on est quand même dans un moment historique qui est pas très favorable. C'est pour ça sans doute que vous me trouvez très pessimiste, mais où on voit qu'un certain nombre d'aspirations qu'on a pu porter pendant des années, aujourd'hui, elles apparaissent proprement révolutionnaires.
Ce pessimisme, vous le partagez, Tchirina Gérolon?
Peut-être pas entièrement. En tout cas, je suis d'accord qu'on est dans un contexte qui est très complexe, qui est difficile. Là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que les périodes de transition, on va dire démocratiques, qu'on a pu observer ces dernières années, ont été évidemment le fait d'une conjugaison de facteurs. À la fois, encore une fois, à la suite de demandes populaires, de manifestations populaires, mais aussi bien évidemment le rôle qu'ont pu jouer les États de certaines régions, pour reprendre encore l'exemple de la Gambie ou du Burkina Faso qui me semble parlant. Ils ont, dans ces deux systèmes, été à la fois poussés par la rue, lâchés par l'armée, et aussi poussés par les États de la sous-région. Mais pas entièrement pessimiste, parce que, encore une fois, je trouve que c'est important de souligner quand même cette nouvelle expression, de demandes politiques qui ont été formulées par les mouvements sociaux ces dernières années. C'est très très parlant sur le cas du Burkina, à mon sens, où on peut faire un peu un parallèle avec le Zimbabwe, dans le sens où après le départ de Compaoré, qui a été suscité assez largement par les mouvements de rue, il y a eu cette reprise en main du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le RSP. Mais pour une période très courte, ils ont été une nouvelle fois poussés par la rue. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir souligner le rôle qui a été joué par ces mouvements.
Voilà, c'est sur ces propos pas entièrement pessimistes, donc on va se quitter ce soir. Merci beaucoup Roland Marchal, Virginie Roiron et Tchérina Gérolon d'avoir participé à cette discussion. Merci en particulier à vous Tchérina Gérolon, parce que vous aviez, pour ceux qui vous connaissent, une vraie extinction de voix ce soir. Merci à toute l'équipe du Grand Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Élise Leu.